Le Parti québécois a déposé hier son plan visant à réduire de manière substantielle l'immigration au Québec. Entre autres, faire passer de 600 000 à 250 000-300 000 le nombre de résidents non permanents. On parle aussi de diminuer le nombre d'étudiants étrangers de 124 000 actuellement à 50 000. Plan très intéressant, plan qu'on nomme un modèle viable en immigration, soulève quand même quelques questions et pistes de discussion. On jase de tout ça ce matin avec Pascal Paradis, qui est député du Parti québécois et porte-parole en immigration. Monsieur Paradis, bon matin.
Bonjour, monsieur, comment ça va?
Ça va très, très bien, toujours un plaisir. Merci d'être là. Monsieur Paradis, le plan se nomme, comme je disais, un modèle viable en immigration. Donc, modèle viable, et c'est peut-être une question niaiseuse pour commencer, viable, mais est-ce qu'on peut dire aussi réalisable?
Oui, oui, parce que ça nous fait revenir à un modèle de gestion des seuils d'immigration et de l'immigration en général qui fonctionnait avant qu'il y ait une espèce de dérive idéologique qui soit imposée dans les dernières années par le gouvernement fédéral avec une perte de contrôle par le gouvernement à Québec. C'est à ça qu'on veut revenir. Il y a une partie qui est contrôlée par le gouvernement du Québec,
oui.
Malgré ce qu'il dit que c'est jamais sa faute. Hein, les étudiants étrangers, le programme des travailleurs temporaires, c'est contrôlé par le Québec et il y a des leviers qu'on peut utiliser dès maintenant. Évidemment, nous, on termine toujours avec la conclusion qui est inéluctable. C'est-à-dire que tant que le Québec n'aura pas le plein contrôle de ses politiques, de ses frontières, de ses décisions, de ses budgets, on n'aura jamais la politique d'immigration qu'on veut avoir, parce que le gouvernement actuel au Québec nous l'a démontré. Il a dit « je vais demander les pleins pouvoirs au fédéral », il les a jamais eu. En fait, il s'est fait dire non sur à peu près tout. Donc, pour nous, la solution, c'est l'indépendance du Québec. Là, on va pouvoir mettre en œuvre une véritable politique québécoise d'immigration. Mais d'ici là, oui, il y a des leviers sur lesquels on peut agir. Et nous, on a présenté un plan détaillé, c'est 94 pages.
Oui.
Avec, vous l'avez vu, là, plein de graphiques, des données. Il y a 245 sources, là, des études, des analyses, des articles, des données statistiques internationales, nationales, qui appuient les propositions qu'on fait dans ce document-là.
Le défi de l'exercice, M. Paradis, c'est-tu d'essayer de trouver le juste milieu ou bien balancer les gens qu'on est prêt à accueillir ici au Québec et ceux que, de façon réaliste, le nombre qu'on peut... Côté logement et autres, c'est ça le défi de l'exercice, trouver le bon nombre de gens? Parce qu'on veut quand même être un endroit qui est ouvert à des gens qui cherchent une vie meilleure ailleurs dans le monde.
Oui, oui, et vous l'avez bien résumé, c'est un plan qui se place à peu près au centre, hein, okay. Dans ce débat-là. Là, il y a des gens qui veulent vraiment fermer les frontières, il y a des gens pour qui c'est l'idéologie d'en avoir toujours plus. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est une réponse à l'initiative du siècle. Ça, c'est la politique idéologique qui guide le gouvernement fédéral, là, qui dit, ben nous, ce qu'on veut, c'est 100 millions de Canadiens dans un pays post-national en 2100. Donc, ça prend à peu près 1 million de nouvelles personnes à chaque année. Puis là, on a vu ce que ça a donné. Ça a donné des seuils d'immigration qui ne permettent pas la réussite de l'aventure de l'immigration. Puis la réussite, elle se place des deux côtés. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui viennent ici, qui choisissent le Québec, puissent réussir, avoir accès à des services, un emploi qui correspond à leur expérience, à leur profil, qui a un logement, qui a un accès équitable à ce qu'on appelle notre social-démocratie. Puis il faut que ça marche aussi pour le Québec, il faut qu'on soit capable de maintenir aussi ce filet social, cette social-démocratie qui caractérise le Québec. Et c'est ce qu'on a voulu faire. Puis notre plan, les gens disent, vous l'avez dit, c'est une réduction. Mm-hmm. Mais c'est une réduction par rapport à la dérive qu'on a vue dans les dernières années. Là. Prenez juste le nombre d'immigrants temporaires sur le territoire. Sachez que dans les 6 dernières années, on est passé au Québec de 160 000 à 600 000 en 6 ans. Donc, nous, on dit, ben revenons à ce qui fonctionnait là avant ce qui s'est passé, là, l'espèce de fixe, les hausses stratosphériques des dernières années. On dit, revenons à ce qui fonctionnait avant, puis ça va nous placer dans la catégorie des pays généreux, accueillants, comme on l'était avant.
Pascal Paradis, je vous écoute, puis je comprends quel est l'idéologie derrière ça, mais n'empêche que quand je regarde les statistiques, en 2040, 31% de la population va avoir 65 ans et plus. Et là, si on réduit l'immigration, puis si on réduit drastiquement l'immigration temporaire, ben il y a le milieu des affaires qui lève la main puis qui dit « Hey, moi, je m'inquiète, j'aurai plus de main-d'œuvre parce qu'il n'y en a plus assez de Québécois sur le marché du travail. » Qu'est-ce qu'on répond aux gens du milieu des affaires?
Bien que il y a 10 ans, il y avait un peu les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs en particulier dans certains endroits au Québec, dans certains secteurs industriels, où tu as besoin d'une main-d'œuvre qui provient de l'immigration. Et ça va continuer. Donc, il n'y a personne qui parle de fermer. On parle de revenir à des seuils normaux, parce que là, actuellement, on a atteint vraiment là, des seuils stratosphériques. Donc, nous, on va continuer à observer quels sont les secteurs en tension, là où il y a de tels besoins, quels sont les endroits au Québec, parce qu'on pense vraiment beaucoup aux régions, où il y a de tels besoins de régionaliser l'immigration. Donc, ça va continuer pour répondre à ces besoins spécifiques. Mais ce que le plan qu'on a déposé démontre, c'est qu'en macroéconomie, toutes les études actuellement démontrent que des seuils massifs d'immigration ne contribuent pas à résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, parce que les personnes qui arrivent sont bien sûr à leur tour aussi des consommateurs, des demandeurs de services qui demandent qu'on construise plus de logements, qu'on a besoin de plus de monde dans les services. Alors ça, c'est un mythe tenace qu'il faut déboulonner et de plus en plus, les banques, la Société canadienne d'hypothèque et de logement, plein d'analystes, d'économistes nous démontrent qu'il faut cesser d'entretenir ce mythe. Ce qu'il faut, c'est un seuil raisonnable d'immigration pour combler des besoins spécifiques. Mais il faut arrêter de rêver à ça, d'entretenir ce mythe que des seuils massifs d'immigration vont permettre de résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas ce que la science, que les experts démontrent.
Hier, le ministre Jean-François Roberge de la CAQ a dit que le PQ et le fédéral se ralliaient enfin aux objectifs de notre premier ministre. Jean-François Roberge dit que la présentation que vous avez faite hier donne raison à ce que François Legault dit depuis des années, puis accuse le PQ d'offrir seulement comme solution pour régler le problème avec Ottawa un référendum sur la souveraineté du Québec. Dit que depuis l'arrivée de la CAQ au gouvernement, on en a fait bien plus que le PQ en exigeant le français pour l'immigration économique et pour les travailleurs étrangers temporaires, des changements majeurs où les péquistes n'ont jamais cru bon d'agir. Qu'est-ce qu'on répond à Jean-François Roberge?
Je vous écoute là, avec un grand sourire. D'abord, une des choses qu'on reproche à ce gouvernement-là, puis je l'ai souvent dit à votre micro d'ailleurs, c'est son manque de planification. En matière d'immigration, c'est le cas. Là. La ministre Fréchette, il n'y a pas plus d'un an, disait que l'immigration temporaire, ça se planifie pas, ça. Ça se peut pas. C'est ce qu'elle nous a répondu en chambre. Et là, aujourd'hui, le Parti québécois, avec ses 4 députés dans l'opposition, a un plan bien plus global, bien plus détaillé, bien plus précis que celui de notre gouvernement, là, qui a tout l'appareil de l'État. Alors qu'on vient de dire que les propos du ministre Roberge, vraiment, alors que le gouvernement a complètement perdu le contrôle des parties de l'immigration qu'il contrôle lui-même. Pensez-y, là, le Québec, sans l'intervention du fédéral, contrôle, par exemple, les programmes des travailleurs temporaires. On est passé de 17 000 au moment où la CAQ arrive au pouvoir à 80 000 aujourd'hui. Les étudiants étrangers, on est passé de 50 000 à l'époque du Parti libéral à 70 000 au moment où la CAQ arrive au pouvoir, à 125 000 actuellement. Donc, le gouvernement du Québec n'a pas pris ses responsabilités, a perdu le contrôle. Nous, on propose un plan global qui touche toutes les catégories d'immigration et qui propose quelque chose de raisonnable qui va fonctionner pour le Québec.
Monsieur Parazis, est-ce que les seuils très élevés d'immigration est réellement une des causes du problème de natalité à la baisse qu'on a au Québec?
La question qu'on a posée hier à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les deux? C'est-à-dire, est-ce que les seuils d'immigration peuvent avoir un lien sur le taux de natalité? Et il a répondu évidemment que oui. C'est que si, en raison des seuils stratosphériques qui ont été imposés par le gouvernement fédéral et sur lesquels le gouvernement du Québec a complètement perdu le contrôle, une famille peu importe là, de qui il s'agit, peu importe qu'il soit récemment arrivé ou qu'il soit ici des gens de deuxième, troisième ou quatrième génération, si tu dis, ben ça va être très difficile pour moi d'avoir accès à la propriété, ça va être très difficile pour moi d'avoir même accès à un logement pour loger une famille, je suis pas sûr que je vais avoir un emploi qui va correspondre à mon profil, à mon expérience, je me demande si je vais avoir une place en CPE, je me demande si je vais avoir un professeur dans la classe pour mes enfants, ben c'est sûr que ça a un impact sur la décision d'avoir ou non des enfants et surtout sur le nombre d'enfants. Alors c'est ce qu'on a répondu hier, que les deux peuvent être liés.
Monsieur Paradis, je vous amène dans une autre sphère parce que vous êtes aussi le porte-parole du PQ en matière de solidarité sociale et d'action communautaire. Hier, on avait Brigitte Garceau du Parti libéral du Québec en entrevue, puis je lui ai demandé, est-ce que vous exigez la démission de Lionel Carman dans toute la tourmente qu'il y a à la DPJ? On apprend aujourd'hui, ce matin, des nouvelles informations comme quoi il y aurait eu d'autres inconduites sexuelles directement là, dans des centres jeunesse par des éducatrices. Au PQ, est-ce qu'on demande la démission du ministre Carman?
Dans des dossiers comme ceux-là, il y a des gestes qui ont été posés là, dans les derniers jours. La démission de la directrice a été demandée, mais à un moment donné, alors que le gouvernement est dans sa septième année de pouvoir, on ne peut pas toujours non plus se rabattre sur l'appareil, il faut dire, ben, qu'est-ce que le ministre a fait, qu'est-ce que le ministre propose. Et dans ce cas-ci, là, on arrive là à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ben, c'est sûr qu'on va poser des questions très sérieuses au ministre pour voir s'il est encore la bonne personne compte tenu des défis qui semblent se présenter dans l'ensemble du système.
Mais croyez-vous que c'est la bonne personne à l'heure actuelle?
Ben, écoutez, La situation s'aggrave là, puis c'est pas des dossiers là qui sont apparus là dans les derniers jours. Les cas dont on parle là, c'est des cas qui étaient sous enquête avec des alertes qui avaient été lancées il y a plusieurs semaines, il y a plusieurs mois, dans certains cas il y a plusieurs années. Donc les questions qui sont posées au ministre sont très sérieuses actuellement, puis on va vouloir des réponses sur sa planification, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est dès cette semaine.
Et dès cette semaine, fait qu'à partir de quel moment on peut demander sa démission? Est-ce que ça pourrait venir aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait venir demain?
Bien, écoutez, c'est un dossier dont on va parler ensemble. Vous voyez que je suis un peu prudent parce que c'est le dossier de mon collègue, notamment Joël Arsenault. Ce sont des décisions qui se prennent en caucus. Pour l'instant, ce qu'on a indiqué hier lors de notre conférence de presse, c'est qu'on nous a posé aussi la question. Puis on a dit, bien, celui qui est imputable à la fin du compte, là, au bout du compte, c'est le ministre. C'est pas l'appareil, c'est le ministre. Puis ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup de ce gouvernement-là aussi, hein, depuis en fait son arrivée au pouvoir. J'en ai déjà parlé aussi à votre micro.
Ouais.
C'est toute la création de ces agences-là, là, où on embauche des gens vers lequel, finalement, on redirige la responsabilité par la suite. C'est la même chose pour l'agence santé. C'est ce que ça veut dire que dans quelques temps, là, quand l'agence va complètement prendre ses fonctions, ça sera plus le ministre qui va répondre de ces questions-là puis qui va être imputable, mais ça va être les directeurs et les hauts gradés de l'agence de la santé. C'est la même chose qui se pose. Il y a une question d'imputabilité. Et à la fin, ça revient, c'est l'imputabilité du ministre concerné.
Monsieur Paradis, en terminant, on a vécu une situation pas vraiment le fun sur les routes et le voyage interrive au Québec en fin de semaine. Pont La Violette à Trois-Rivières fermé d'urgence. Pont de Québec fermé pour des travaux. Ça a été un casse-tête pour plusieurs derrière le volant. Ça aurait pu être plus critique en plus si on a vu quelque chose sur le pont Pierre-Laporte. Lorsque vous voyez ce genre de situation-là, est-ce que ça change votre opinion sur le besoin d'un troisième lien?
Non. Il y a des véritables problèmes de circulation à Québec, dans la région. On les vit à tous les jours. Ils ont été analysés, ces problèmes-là, sous toute leur couture par des... C'est des PQ Infra là, qui vient de déposer son rapport au printemps dernier, là, a étudié 1000 études, 1000 analyses et documents, a consulté 172 parties prenantes, et a conclu que cette solution-là, ce n'est pas la bonne. C'est pas ça qui va régler les problèmes. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui pensent, ben, ça va régler mon problème, par exemple, quand j'arrive la partie nord de la ville vers le centre-ville. Non, ce n'est pas ça qui va régler le problème. Et nous, comme politiciens, il faut qu'on prenne les décisions sur la base des meilleures données possibles, autant sur le plan financier que sur le plan technique, que sur l'effet que les projets qu'on propose vont avoir. Ce qui est proposé, c'est le plan cité. C'est un projet, c'est un programme ambitieux pour Québec et c'est celui-là qu'on propose de mettre de l'avant.
Craignez-vous, parce que vous êtes en avance, le PQ présentement, dans les intentions de vote dans la région de Québec, craignez-vous que vous positionnez justement fortement contre le troisième lien va vous amener à perdre cette avance-là parce que c'est un projet qui a une énorme acceptabilité sociale présentement?
Moi, je pense que les gens à Québec, comme dans tout le Québec, apprécient les politiciens, leurs représentants qui leur parlent avec franchise, avec honnêteté et qui fondent leurs actions sur les meilleures données disponibles. Et je le redis encore, actuellement, les données disponibles indiquent que cette solution-là ne résoudra pas les problèmes qu'on veut solutionner. Et donc, je compte sur l'intelligence des gens de Québec là-dessus. C'est ce qui a été dit d'ailleurs par la ministre elle-même l'année dernière. Hein? Donc, on a un gouvernement actuellement qui entretient une fable, qui a fait une campagne électorale en 2018 sur ce projet-là, qui a fait une autre campagne électorale en 2022 sur ce projet-là, qui a fait campagne dans la circonscription de Jean Talon en disant qu'il n'y en aura pas, puis ensuite, après l'élection dans Jean Talon, qui a dit qu'il va en avoir un, puis là, qui se prépare avec un calendrier qui est calqué sur celui des prochaines élections. Hein. Vous l'avez vu, là, ça nous mène juste à temps pour les prochaines élections. Là, on dit, oh, s'il se passe quelque chose, ça va être après les prochaines élections. Alors, je demande aussi aux gens de considérer ça. Est-ce qu'ils ont confiance en ce gouvernement-là? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'il y a une possibilité que ça arrive? Nous, on dit, c'est une fabulation. Ça n'arrivera pas. Et c'est une idée qui est entretenue pour des fins purement électoralistes.
Pascal Paradis, député du Parti québécois dans Jean Talon, aussi, entre autres, porte-parole en immigration. Monsieur Paradis, toujours un plaisir. Merci pour votre temps ce matin.
Merci à vous. Au revoir.
À bientôt.
Merci.
Au revoir. Salut.
Faut le faire, hein? Faut le faire tenir son bout à ce point-là, oui. Troisième lien sur un projet, on le sait. On regarde les textos rentrés.
Ah, non, c'est
ça. Ça se résume avec si on tient ces propos-là, si on veut pas de troisième lien, ils n'ont pas mon vote. Là.
C'est ça.
C'est raide, là.
Exactement, très raide. T'sais, est-ce que justement ça va être le fameux dossier, là, puis là, je vais prendre ce terme-là, le fameux dossier caca là, du PQ qui va faire en sorte que dans la région de Québec, il va y avoir des votes qui vont se donner à la CAQ ou au PLQ ou même au Parti conservateur du Québec, là, qui est le seul à prôner présentement le troisième lien. Ça sera à suivre. Chose certaine, par exemple, j'aime l'approche du PQ dans le sens que on avance présentement par projet, puis on avance en proposant des solutions claires qui sont basées sur des données scientifiques. T'sais, c'est ce qui se produit présentement en immigration. Aime ou aime pas, c'est ce qu'on fait quand même avec le troisième lien en disant, écoute, même la Caisse de dépôt et de placement ne l'a pas recommandé. Ils ont recommandé un plan cité. Nous, on est pour le plan cité. On pense que c'est plus là qu'on va venir justement combattre la congestion routière. Alors, tu sais, qu'on soit en accord ou non avec leur prise de position, immigration, transport, n'importe quoi, le plan quand même est établi sur des données scientifiques et claires. Il n'est pas émotif, il est stratégique. Donc ça, pour de vrai, je pense que ça vient vraiment rassurer la population, cette approche plus cérébrale, cette approche plus méthodique du PQ.
Ben, tu dis que par ça rapport rassure, à ce qu'on voit. Mais en même temps, les textos qu'on voit, je pense qu'il n'y a pas un texto qui dit « bravo de respecter ce que les analyses ont dit ». Le monde est fâché. Ouais. Il n'y a pas de troisième lien, même si les analyses disent que ça n'en prend pas.
C'est ouais. Certain qu'en règle générale, ça va voter avec les émotions.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, depuis le début, que je dis que le troisième lien, ça va être malheureusement le dossier qui va faire chuter le PQ dans la région de Québec. Là. Donc, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si on le regarde dans le portrait général province, je pense que leur approche vient justement rassurer plusieurs électeurs.
Ah oui, puis comme, tu sais, avec M. Paradis, toujours des bonnes discussions, comme ça l'est avec d'autres politiciens, des politiciennes des autres partis qu'on a ici à Rage Against le matin, on jase et ensuite, ben c'est à l'auditeur, l'auditrice de faire son choix. Et la façon de faire ce choix-là, éventuellement, ça va être d'aller placer le X pour le parti que vous voulez lors des prochaines élections.
Oui, puis c'est exactement pour ça qu'on a décidé de parler du troisième lien ce matin, parce qu'on veut justement que nos auditeurs aillent leur juste.
Absolument.
Puis sachent qu'est-ce que le PQ prône par rapport au troisième lien. Maintenant, ça ne peut pas être plus clair pour eux.
Courte pause, 8h09 déjà. Ensuite, entre autres, dans l'heure de 8, on va avoir en studio avec nous l'ami Derek Blouin-Perry qui s'en va demain matin, part pour une troisième mission humanitaire en Ukraine. Pourquoi il est retourné une troisième fois? Qu'est-ce que ça fait pour lui, une troisième mission? Est-ce que ça va être une mission plus dangereuse? Maintenant que lui a plus d'expérience, on jase de tout ça avec Derek dans les prochaines minutes. On s'arrête.